Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, une émission spéciale mobilisation du 10 septembre et nous sommes en compagnie de Gilles Tabourdeau pour la FSU 86, bonjour.
Bonjour.
Sophia Rock pour la CGT, bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Rigoulet pour Solidaire 86, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là. Alors, certains d'entre vous, ou même tous les trois, peut-être vous êtes levés très tôt, ou vous n'avez peut-être pas beaucoup dormi.
Oui, c'est vrai que ce matin, on s'est levé très tôt pour être à 5h au rond-point du centre commercial sud. Et oui, mais on était très contents d'y trouver beaucoup de citoyens engagés et prêts à s'exprimer et à bloquer, bien entendu.
Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé ce matin. C'est vrai que le rendez-vous était à 5h au rond-point sud, vers la zone d'Auchan. Voilà, combien vous étiez? Comment ça s'est passé?
Moi, je dirais qu'on était plus de 300. Et après, ça s'est grossi au fur et à mesure que le temps passait. Mais j'étais très surpris qu'il y ait eu autant de monde à cette heure prêt à faire cela. Et j'étais très content d'ailleurs parce que voilà, cet enthousiasme était très intéressant, notamment pour nous, syndicalistes, de voir un enthousiasme comme ça.
Alors, vous avez donc bloqué cet accès, l'un des accès principaux de Poitiers. Et donc, il y a plusieurs mouvements qui sont prévus. Il y avait à Châtellerault aussi ce matin, la mobilisation, c'était à 10h.
Oui, tout à fait.
Et donc, vous aviez des gens sur place. Racontez-nous comment ça s'est passé, là.
Alors, comment ça s'est passé? Alors, je n'y étais pas, mais nous avons des informations. Il y a à peu près 500 personnes qui sont en train actuellement de défiler. Dans un premier temps, il y a eu un rassemblement auprès du lycée Berthelot avec les étudiants et des militants de la CGT. Et puis après, il y avait un rendez-vous donc au kiosque et il y a eu beaucoup de monde. Nous sommes ravis, on se félicite de la mobilisation et citoyenne et également de nos trois syndicats ici présents sur les trois... Sur les actions qui ont été menées, et l'idée c'est que ça perdure dans le temps, donc il faut qu'aujourd'hui la sauce prenne, si j'ose dire, et je crois que si on est là, c'est qu'on y croit encore.
Alors racontez-nous au début comment ça s'est passé, c'était sur les réseaux sociaux, ce mouvement Bloquons Tout, ça venait pas des syndicats au départ, comment vous avez accueilli cette mobilisation un petit peu sur les réseaux en sous-main au départ?
Ben nous, à Solidaire, on a suivi ça, on a vu naître ce mouvement. Connaissant nos valeurs contre l'extrême droite, on s'est déjà demandé qui était porteur de cette action. On voulait être certain que ce n'était pas un mouvement extrémiste. Et après, au fur et à mesure que le mouvement s'est développé, on a vu que c'était un mouvement qui était populaire au sens noble du terme, qui était plutôt porté par le peuple de gauche, quoi.
Donc c'est ça qui vous a motivé à rejoindre au final cette action?
Alors, la question, c'est pas de rejoindre ou ne pas rejoindre. L'intersyndicale a pris une position, une expression sur ce mouvement en disant que c'est un mouvement qui existe, c'est un mouvement qui s'est construit à côté du circuit syndical et intersyndical, et que ce mouvement, il a une légitimité pour exister dans ce paysage. Nous, intersyndicales, une partie d'un certain syndical de la Vienne, on a décidé qu'on était là pour être en appui de cette mobilisation, qu'on était là pour aussi apporter parfois un savoir-faire quand il y avait des besoins, et que, en tout cas, notre souhait, c'était de s'inscrire dans cette journée en la considérant comme un point d'étape d'un plan de mobilisation beaucoup plus long dans l'automne budgétaire, avec une volonté de lutter contre l'austérité budgétaire avec des dates. C'est pour ça d'ailleurs que l'intersyndicale nationale a appelé à la date du 18 septembre en disant « il y a le 10, va y avoir de quoi construire à partir du 10 pour amener à une grève majoritaire et unitaire le 18 septembre et après ». Parce que on voit bien que la lutte sur le budget, elle commence juste. D'ailleurs, avec la nomination du Premier ministre Le Cornu hier, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas saisi l'urgence de changer de politique. Donc, la nomination confirme le fait que cette mobilisation, aujourd'hui, le 18 et après, jusqu'à ce qu'on obtienne un changement radical de politique budgétaire et politique sociale, Nous, on ne lâchera pas. On sera là pour accompagner et les mouvements citoyens et bien sûr construire dans le monde professionnel un mouvement syndical et intersyndical.
Et pour compléter les copains, effectivement, il ne s'agit pas de nous opposer, mais vraiment d'être dans l'accompagnement de mouvements. Effectivement, si peut-être d'un point de vue de l'extérieur et quand on n'est pas dans le milieu militant, le grand public a peut-être eu la sensation qu'on était lent à démarrer, mais je crois que ça fait aussi partie de cette réflexion, de l'observation, de l'analyse qu'on peut avoir sur les territoires, de la coordination aussi entre nous, mais il ne s'agit pas de nous opposer parce que ça, ce n'est pas notre terrain et on sait à qui il appartient. Et c'est pour ça qu'on a pris ce temps d'observation. Mais je pense qu'il est devenu très clair, et les trois organisations syndicales, notamment localement ici, de se dire on va accompagner ce mouvement, on va y aller et on va laisser place aux militants d'être présents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque effectivement, il y a beaucoup de militantes solidaires, mais également du AFSU, également de la CGT, qui sont allées sur les mouvements de 5 heures du matin. Et l'idée, c'était un point d'étape, encore une fois, et pour, en fait, avoir, je pense, un moment très, très, peut-être plus structuré au sens avec les autres organisations syndicales à partir du 18 septembre, où là, quasiment toutes sont d'accord de lutter contre ce plan d'austérité.
Oui, parce que vous le disiez, il y avait d'abord savoir qui était derrière ce mouvement. Ça, c'était quelque chose d'important. Il y avait aussi les moyens d'action. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait reculer, par exemple, la CFDT, qui avait peur que ce soit des moyens d'action peut-être trop violents. Est-ce que ça a été une crainte pour vous ?
Pour Solidaire, non, pas vraiment, parce que on est là aussi pour faire des actions qui sont marquantes. Pas illégal, mais qui marque l'opinion publique. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre au service de ce collectif notre outil syndical, à savoir déposer des préavis de grève aussi dans le privé et dans le public, afin de garantir à tous ces participantes et ces participants qu'ils n'auraient pas de problème avec leur employeur et qu'ils pourraient venir sur un temps de grève. Donc on a voulu absolument apporter cette garantie. Et pour nous, Solidaires, le syndicat aussi, c'est un outil avant tout. On est des syndicalistes, mais on a cet outil syndicat, et plus on peut le mettre à la portée des gens qui partagent nos valeurs, ou des gens qui combattent ce budget austère et toutes ces attaques contre le peuple. Voilà, on donne les moyens à ces gens de pouvoir lutter. Mais bien entendu, c'est autogéré, c'est eux qui prennent les décisions.
Et quant à votre question sur la place de la CFDT, s'ils pensaient que les mouvements... Enfin, moi, je renverrai la question. Qu'est-ce qui est plus violent si ce n'est pas la suppression des jours fériés, les coupures sur les services publics, la énième réforme assurance chômage, la gel des prestations sociales? La vraie violence, elle est peut-être là, en fait, de ce qu'on fait subir à chaque citoyen. Et je crois que le mécontentement, il est légitime. Alors évidemment, il n'y a aucun appel d'aucune organisation syndicale à des mouvements radicaux qui viendraient à tout détruire ou autre. Mais en tous les cas, je crois que le mécontentement, il est temps. Il est vraiment temps de l'entendre. Et c'est ce que nos organisations syndicales, en étant présentes, ont envie de dire aussi. Enfin voilà, entendez ce qui se passe.
Ce qui nous a paru intéressant, et ce pourquoi notre intersyndicale a souhaité soutenir le mouvement du 10, c'est que ce mouvement d'initiative citoyenne, pour lequel une grande partie des partis politiques de gauche ont appelé, est un mouvement qui a rappelé la nécessité d'une justice fiscale. Jusqu'à présent, on voit bien que beaucoup de citoyens ne mettaient pas forcément des mots là-dessus, très clairement. Là, il y a eu un étendard qui a été commun, et qui est commun aussi avec la lutte intersyndicale que nous on mène dans le monde du travail. Et c'est pourquoi on a souhaité les rejoindre. La question de la forme de mobilisation, elle se pose, et je pense que notre camarade Bruno de Solidaire l'a bien rappelé. Il y a une auto-organisation, et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas un mouvement aujourd'hui qui est construit par l'intersyndicale. Il y a une auto-organisation. Mais derrière, on est bien conscient que ce sont des citoyens qui vont se battre dans un cadre citoyen. On a bien vu sur les assemblées générales, ce n'étaient pas des assemblées générales de casseurs qui s'organisaient. Ce sont des assemblées générales de citoyens qui ont construit un plan d'action pour rappeler leur attachement à plus de justice fiscale et à une autre politique. Là-dessus, nous, on s'inscrit là-dedans et on propose de poursuivre la mobilisation.
Et l'autre question qui se posait aussi, c'est Quelles revendications? C'est vrai que quand c'est porté par des syndicats, en général, il y a une petite liste de revendications où vous vous mettez d'accord. Là, ça peut partir un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous avez entendu là, dans les mouvements, peut-être déjà ce matin? Qu'est-ce qui ressort le plus?
Ce qui ressort le plus, c'est le désaveu de la politique, en premier. Le désaveu du gouvernement Macron et le fait d'avoir nommé M. Lecornu Premier ministre. Et le symbole qu'il représente en étant ministre des armées aussi.
Mais ça, c'était.
Donc ça, on l'a entendu, parce que dans ce mouvement, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait énormément de jeunes. Et ça fait plaisir que les jeunes se sentent concernés par toutes ces questions-là. Et ils étaient là, très nombreuses et nombreux. Et donc, voilà, l'aspect politique et l'aspect aussi budgétaire. C'est-à-dire comment on va finir le mois, ça va plus. Donc les jeunes dans la précarité... la radio Pulsar est bien placée pour connaître cette précarité et la voir au quotidien. Et la précarité aussi des retraités aussi. Il y avait des retraités aussi qui étaient présents. Donc on voit que ça concerne toutes les couches de la société.
Et si je peux rajouter quelque chose, on voit bien que la demande de faire des économies de 40 milliards sur le dos de justement ces personnes, les précaires, les classes moyennes, les retraités, alors que dans le même temps, le Sénat révèle qu'il y a 211 milliards d'aides sans contrepartie qui sont données aux grandes entreprises, inévitablement, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher les 40 milliards là-dedans? Et les gens le disent, ils disent, il n'y a aucune cohérence dans cette demande. Et on peut se dire qu'on est aussi aidé dans ce mouvement qui démarre avec le fait que le Sénat et les sénateurs de gauche aient réalisé ce rapport pour mettre en évidence quelque chose qui n'avait jamais été quantifié. Le premier budget de la nation, ce n'est pas l'éducation ou la défense, comme on nous l'a dit depuis des années. Le premier budget, c'est la subvention aux grandes entreprises qui donnent des dividendes à leurs actionnaires. C'est ça la réalité. Et ça fait sens chez la plupart des citoyens et citoyennes.
Oui, et vous demandiez qu'est-ce qu'ils disent. Quand vous entendez quelqu'un qui est salarié et qui vous dit « j'en ai marre de sauter un repas tous les midis parce qu'il faut que je fasse des économies », donc ce qu'on peut demander, c'est une justice sociale, une augmentation des salaires, une augmentation des minima sociaux, des pensions. Et puis également, je rejoins Gilles sur une justice fiscale, ouais, 211 milliards. En fait, y a ça à devenir fou. Il y a un discours où on veut taper sur tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Serrez-vous encore plus la ceinture. En nous faisant culpabiliser aussi. Il y a ça, on ne fait pas bien comme il faut. On est les méchants, on est toujours en grève, on ne veut pas travailler, on veut des congés. Et nous, on est les mauvais élèves de l'Europe parce que les autres travaillent vachement plus que nous. Enfin voilà, tout ce discours. Et par contre, les 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucun contrôle, le non-partage des dividendes, etc. Ça, curieusement... ça devient un faune. Voilà. Donc je pense que soit il faut qu'il y ait une consultation en urgence en ORL pour que ça soit enfin entendu par ceux qui nous gouvernent, ou je ne sais pas, voilà, c'est une préconisation un peu sociale, parce que je représente les orgas sociaux. Donc la sécurité sociale, on en parle aussi, ils veulent l'enterrer, ils veulent la tuer. Elle a 80 ans, on est plus vieux qu'eux presque. Hein. Donc avec des modèles à faire taxer, la double taxation, là, les médicaments, etc. Enfin... je crois qu'il y a une déconnexion, on est hors sol, ça y est, là aussi, voilà, ils sont hors sol. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont peut-être pas dans notre monde, en fait.
Je vous propose de continuer de parler de cette mobilisation, mais d'abord juste de découvrir Mélina Vlatcho. Elle s'inspire de ses origines grecques, elle écrit et compose ses mélodies, elle chante, elle joue au oud et elle danse aussi, et elle accompagne une contrebasse et de percussions orientales. Sirena pis sti mana sou na kani kia ligena na kapsi kia lou nou kardia pou se kapse ke mena. Τα ματάκια σου τα μαύρα που είναι λαύρα. Go!
Pulsar, c'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la Terre.
Sans doute. C'est d'ailleurs la seule explication possible.
Pulsar.
Les représentants de l'intersyndical mobilisés ce 10 septembre, Gilles Tabourdeau, Sophia Roch et Bruno Rigoulet sont avec nous aujourd'hui pour parler de cette mobilisation publique, privée. C'est vrai que dans les deux cas, les gens sont mobilisés. Et vous, Bruno Rigoulet, qui travaillez pour les finances publiques, vous avez quelques chiffres à nous partager?
Bah déjà, ce qui revient tout le temps, c'est les impôts et que c'est toujours les plus faibles, les plus pauvres qui en payent. Donc déjà, nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on lutte réellement contre la fraude fiscale. Travaillant dans l'administration fiscale, on voit qu'il y a 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale.
Et d'optimisation, on dit.
Oh, bah c'est un mélange des deux. Est-ce que optimiser pour échapper à l'impôt, c'est réellement appartenir à la France et vouloir contribuer au budget de tout un chacun? On ne pense pas à Solidaire. Mmh. Ce n'est pas un délit, bien entendu. Mais c'est une façon de voir les choses qui nous convient très peu. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, notamment l'instauration d'une taxe de 2%, la fameuse taxe Zuckman. 2% sur les 1800 ultra-riches, ça représenterait 20 milliards d'euros. Donc, ça ferait peut-être pas grand-chose pour eux, vu comment ils se sont enrichis avec les dividendes qu'ils ont touchés au fil des années. Voilà, c'est pas les mêmes besoins que tout un chacun. Après, un audit sur les niches fiscales, vous savez, les aménagements de l'impôt, il y en a beaucoup qui profitent aux plus riches. Et donc là aussi, si on mettait les moyens, ça représenterait 17 milliards d'entrées en plus dans les caisses de l'État. Et enfin, la taxe sur les dividendes aussi, 1%, ça représenterait 1 milliard d'euros de recettes. Donc les milliards, on les trouve hein, si on veut vraiment les chercher. Et rétablir, bien entendu, l'impôt sur la fortune.
Je disais public-privé, justement dans les services, est-ce que vous avez un peu des retours de comment ça se passe au niveau de la grève? Est-ce qu'il y a des services qui sont à l'arrêt?
Bah, alors dans le public, la question de cette grève, elle est vraiment à géométrie variable en fonction des secteurs. On va avoir des secteurs où on a des travailleurs qui travaillent toute la journée et qui du coup vont se mettre en grève pour participer à l'ensemble des actes de mobilisation. Il y a des endroits où, par exemple, on va prendre le cas concret de l'éducation, il y a des endroits où il y a des collègues qui vont avoir une heure de cours et qui ne vont pas perdre un 30e, parce que c'est faire quand même un cadeau à l'État aussi de ce côté-là, vont faire leur heure de cours et participer aux mobilisations. On voit que c'est la géométrie variable. Nous, ce qu'on pense, c'est que cette journée-là, elle n'est pas regardée à l'aune de la grève qui peut être réalisée dans les différents secteurs, puisque c'est une mobilisation à l'appel des collectifs de citoyens, etc., de citoyens, citoyennes. Ce qui ne sera pas le cas du 18, qui là est un appel à la grève au carré de l'intersyndicale, sur lequel il nous paraîtra intéressant de regarder les chiffres des grévistes en plus des chiffres des manifestants. Là, aujourd'hui, il faut regarder là où il y a des actions, là où il y a des blocages, là où il y a des mobilisations, des manifestations et quelle ampleur elles peuvent avoir. C'est ça qui va donner l'indication. On est sur une première mobilisation de rentrée. À titre de comparaison, en 2019, le 5 décembre, qui a été une très, très grosse manifestation à Poitiers, il nous a fallu 3 mois pour la monter. Là, on avait 10 jours, donc on ne va pas se mentir, on est déjà sur une très très belle mobilisation pour une mobilisation qui s'est construite en 10 jours. Et on sait et on espère que le 18 sera encore plus massif et que ça continuera jusqu'à ce qu'on obtienne le recul d'un changement de politique.
Et du coup, je pense qu'effectivement, on aura peut-être une comptabilité un petit peu plus juste et un regard un peu plus, une analyse un peu plus fine après le 18 septembre, car aujourd'hui, on le répète, c'est une première étape à une mobilisation peut-être plus forte. Pareil, hein, la CGT, il y a certains secteurs qui ont appelé. Au niveau national, la centrale nous a dit, c'était voilà, d'organiser là où il était possible des actions et des AG dans les entreprises. Encore une fois, c'est aussi notre base à la CGT, c'est de partir des salariés, des travailleurs, de leur réalité, de leurs revendications, pour pouvoir s'organiser et après se mobiliser sur le terrain. Donc certaines branches, certains secteurs, certaines fédérations ont appelé. Ça a été suivi dans la Vienne par certaines entreprises. On aura des retours certainement à l'issue de cette journée ou dans les jours à venir. Mais encore une fois, l'idée, c'était d'une première étape et de voir comment on allait s'organiser et quels sont les modes d'action, on parlait tout à l'heure, qui vont être déployés dans les jours à venir.
Et alors justement, les jeunes, vous le disiez, se sont impliqués aussi. Il y a des lycées qui ont été bloqués par les lycéens eux-mêmes. C'est vrai que ça touche un peu toutes les tranches d'âge et toutes les strates de la population.
Bah, alors sur les jeunes, il est très clair, hein, les premiers usagers des services publics, ce sont les jeunes. Ils fréquentent l'école, ils fréquentent les établissements, ils viennent à l'université, ils voient très bien qu'université est en déficit, ils voient très bien qu'il n'y a pas de moyens, qu'ils sont 40, plus de 40 par cours, qu'en lycée, ils sont 35. Donc oui, effectivement, ils se sentent concernés. Et d'ailleurs, je pense que notre organisation dénonce certains propos de chefs d'établissement qui ont menacé de sanctions disciplinaires, voire pénales, des lycéens qui se mobiliseraient sous toute forme, y compris par le blocage, mais je pense que cette condamnation, elle est partagée par l'intersyndicale du département. C'est scandaleux. Enfin, les jeunes sont des futurs citoyens, surtout au lycée, ils sont en train de se construire. C'est déjà très bien qu'ils se saisissent de ces questions. Et le monde qu'on construit aujourd'hui, on le construit pour eux demain. Donc c'est normal qu'ils se sentent concernés.
Oui, ben, il ne faudrait pas trop qu'ils réfléchissent non plus, enfin. Donc effectivement, je crois qu'on peut que saluer la mobilisation aussi des étudiants. C'est les premières concernées et c'est aussi... ça fait un peu vieille quand je vais dire ça, mais on construit un peu leur avenir. Et d'entendre de telles aberrations, parce qu'on finalement s'en est, hein, de les menacer alors que finalement ils prennent leur rôle à cœur. Alors certains diront oui parce qu'ils ont envie de sécher, vous entendez le truc. Je crois que c'est bien qu'ils se sont engagés dans la société, parce que celle qu'on est en train de leur proposer, et si on ne se mobilise pas plus, et encore, elle n'est pas terrible, quoi. Donc, on peut saluer leur, également leur implication, quoi, et leur engagement. Je crois que c'est important, le mot engagé, parce qu'on en a besoin.
Et juste, on va finir là-dessus. C'est, pour vous, vous le disiez, c'est une première étape. Le prochain rendez-vous, c'est 18 septembre, voire au-delà.
Alors,
jusqu'où ?
La première étape, c'était aujourd'hui. La prochaine étape, le 18 septembre, en tout cas, c'est une perspective. Nous, on est convaincus qu'il va se construire des choses entre aujourd'hui et le 18 septembre et que cela va permettre d'alimenter la construction de cette grève massive et unitaire. Et puis, l'idée, c'est de continuer à donner des rendez-vous pour peser dans le débat public, être de plus en plus nombreuses et nombreuses. Et à un moment donné, si le président Macron il n'écoute pas les gens qui se mobilisent, qui contestent la politique qui est menée, ça finira par une manifestation probablement nationale. Et là, le rapport de force, il va s'imposer à lui. Il peut être déconnecté, il continuer à faire le forcené de l'Élysée, à s'enfermer et à ne pas entendre ce qui se passe dans l'hémicycle. Je pense qu'en 2023, il était confortablement assis à l'Élysée avec une majorité relative. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il n'a plus de majorité à l'Assemblée. Il n'a d'autre choix que d'écouter les mobilisations qui vont se construire. Aujourd'hui, le 18 et après, jusqu'à la fin de l'austérité budgétaire.
J'allais dire la même chose, c'est-à-dire que le 18 septembre, on s'espère nombreux. Et je crois que finalement, dans la nomination du Premier ministre... je vois aucun changement de braquet, aucunement. Je vois juste une cohérence avec ce qu'il est, avec ce qu'il nous impose. Barnier, Bayrou, on est dans la même lignée. L'austérité, austérité, austérité, dites je le jure, austérité. Voilà. Pourquoi on se mobiliserait plus ? Pourquoi on se mobiliserait ? C'est vrai, la vraie question. Pourquoi on se mobiliserait plus ? En fait, rien ne fait dans le sens et dans ce que les urnes ont démontré. Donc, j'espère que les 18 sera une réussite et que ça va se transformer jusqu'à un changement de braquet clair et à que Monsieur Macron retrouve Louis.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc Gilles Tabourdeau pour la FSU, Sophia Roch pour la CGT et Bruno Rigoulet pour Solidaires. Merci d'être venu représenter l'intersyndicale et la mobilisation de ce 10 septembre.
Merci à vous.
Merci.
Demain, dans Séquence Midi, nous parlerons de la création de l'ADIM, l'Association des indépendants des métiers externalisés de l'entreprise de la Vienne, et puis d'un projet de bambouseraie à Availle-Limousine, qui est combattu par un collectif de citoyens. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert pour son film Coup de cœur.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine sort au cinéma Le Dietrich, notre coup de cœur du mois de septembre à absolument ne pas manquer. Ça s'appelle Sirat, c'est un drame halluciné de Oliver Lackshay qui est un cinéaste franco-espagnol. Le film est avec Sergi López, le trop rare Sergi López qu'on avait connu dans Harry, un ami qui vous veut du bien et qui malheureusement se fait rare sur nos écrans, ainsi que Bruno Núñez Arjona qui joue son fils. C'est un film qui se passe dans le désert du Maroc, qui a gagné le grand prix du jury au Festival de Cannes cette année et si vous voulez mon avis, il aurait dû gagner la Palme d'Or. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Il se rallie à un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert et s'enfonce dans l'immensité brûlante d'un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. Ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que le père et le fils sont des acteurs, mais tous les autres personnages jouent leur propre rôle. Le réalisateur est allé en teuf chercher des ravers, des teufeurs qui ont accepté de jouer dans ce film de fiction, je précise, aux grandes allures documentaires. Le film est extrêmement surprenant et je vous en lis une petite critique. Dans la culture musulmane, le Sirat, le titre du film, est un pont suspendu qui mène ceux qui l'empruntent soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Dans le film de Lackshay, le chemin des personnages va justement les conduire au paradis de la liberté ou à l'enfer d'un cauchemar chaotique. On a coutume de dire parfois que peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Celui de Sirat est extraordinaire, fiévreux, d'une intensité folle, d'une beauté humaine forte, d'un désespoir tenace et d'une horreur terrible aussi. Je ne vous cache pas que c'est le coup de cœur de l'équipe, c'est un film qui nous a subjugués. Et pour information, il sort aujourd'hui 10 septembre, mais le 23 septembre à 20h30, le film sera gratuit pour les étudiants avec leur carte culture. N'hésitez pas à venir le découvrir, c'est Sirat au Dietrich.
Merci beaucoup pour ces conseils cinéma. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Alors un agenda spécial mobilisation du 10 septembre, forcément, je vous l'avais dit, c'est le thème de cette émission spéciale de Séquence Midi, édition spéciale de Séquence Midi. Alors à 14h, manifestation départ de la préfecture à Poitiers, à 18h, il y a une assemblée générale à Lille-aux-Tisons, et puis à Civray, le rendez-vous est devant la mairie à 17h30. Sur Pulsar, vous retrouvez à 21h l'Indépendance, votre émission de Novo Pop qui existe depuis 40 ans maintenant. À 23h, c'est Sono Kino et ce sera un hommage à l'un des maîtres de la composition pour des images en mouvement, Lalo Schifrin, avec sa toute première émission pour la télévision. Merci Angélique pour la réalisation de cette émission. Vous passez votre après-midi en musique sur Pulsar.